ne peut pas le soutenir. Puisqu'alors la parole du Christ ne serait plus vraie. Ceci est mon corps. Ce serait ceci et du pain et mon corps. C'est à cause de ça que l'Église, de fait, a rejeté cette opinion comme une opinion qui n'était pas exacte. Parce qu'elle ne respectait pas la signification de la parole du Christ et la consécration. Analyser la parole du Christ, ceci, c'est ce que je vois. Ceci est mon corps. Donc, il faut accepter que ceci, ce que je vois, les apparences, les espèces eucharistiques, demeurent. Rien n'est changé en apparence. Sensible propre, sensible commun. Rien n'est changé selon les apparences. Mais la réalité profonde, au-delà des apparences, l'au-delà des apparences est la substance. C'est-à-dire ce qui est fondamental dans l'ordre de la réalité. Ce n'est plus du pain, c'est mon corps. Dans le passage du corps du Christ, du pain au corps du Christ, les apparences demeurant les mêmes. C'est cela qu'on appelle transsubstantiation. Et on met le mot substance en opposition aux apparences. Le mot nous-mêmes, dans un langage kantien, non mais pas le mot nous-mêmes, parce que le mot nous-mêmes, dans un langage kantien, justement, est déterminé à une école. Le mot substance est beaucoup plus général que nous-mêmes. Faites expérience, vous allez se demander à quelqu'un, est-ce que ça vous signifie quelque chose, un repas nouménal? Un repas substantiel, ça signifie quelque chose, on veut dire tout ce qu'on veut. Le mot substance veut dire couramment la chose radicale, et quand l'Église prend le langage particulier, même quand c'est un langage philosophique, ce langage philosophique n'est plus philosophique, c'est le langage du bon sens. Tout le temps. Alors évidemment, il y a un enracinement philosophique, c'est bien évident, le mot substance. On ne peut pas supprimer qu'il y a eu toute une philosophie de la substance. Alors, nous allons continuer, si vous voulez, cette petite étude que nous faisons du Concile. Étant donné que je n'ai pas le temps avec vous de regarder tout ce que nous dit saint Thomas sur l'Eucharistie, je vous invite vivement de le faire. Il faudrait maintenant commencer le cours de l'Eucharistie tel que saint Thomas le donne. Je crois que ce n'est pas le but direct du cours, c'est plutôt d'essayer de faire entrer dans ce que représente la sacramentalité, le passage du geste au sacrement, pour mieux comprendre ce que nous dit saint Thomas. Il faudrait maintenant lire. Ce qu'ils n'ont pas encore fait, je les invite vivement à le faire. Et s'ils ont des questions en lisant saint Thomas, parce qu'il faut avoir lu quand même le traité de l'Eucharistie de saint Thomas, c'est absolument indispensable, un très beau traité. Alors, s'il y a des questions par rapport au texte de saint Thomas, notez-les. Et puis on pourra faire une fois un cours sur les questions dont ceux qui auront lu le traité de saint Thomas. On pourra à ce moment-là faire un petit cours sur les questions posées par rapport au traité de saint Thomas sur l'Eucharistie. Je crois qu'il faut le lire maintenant. C'est dans cette lumière-là qu'il faut lire, voyez. Et à ce point de vue-là, on a quand même quelque chose de particulier, puisque le Concile, c'est l'enseignement de l'Église. Et c'est très beau de voir que cet enseignement de l'Église nous conduit directement. Si vous aviez le temps, je dirais, lisez aussi le traité de l'Eucharistie d'Eckhart. Moins important. Mais simplement pour voir les bêtises qu'on peut dire. C'est toujours intéressant de voir que les bêtises se répètent. et que la doctrine profonde ne se répète pas, mais se doit se redécouvrir chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'était difficile. Alors, comprenons bien, je faisais allusion à ce que l'expert du Concile disait dans sa lettre, je ne l'ai pas ici, j'avais à ce moment-là, ça va être intéressant de vous la donner, parce que c'était intéressant comme lettre. C'était distribué à tous les pères du Concile, pour que les pères du Concile puissent rejeter la transsubstantiation et mettre la transsignification et la transfinalité à la place. Vous voyez, d'après le cours de ce matin sur la phénoménologie, vous voyez tout de suite comment, dans une perspective phénoménologique, au niveau de l'intentionnalité, on peut parler de transsignification. Et on peut parler de transfinalité. On ne peut plus parler de transsubstantiation. Et c'est ça qui faisait dire au père Schellebeck qu'il faudrait modifier pour être dans la perspective de la phénoménologie d'aujourd'hui. Mais la phénoménologie n'est pas la philosophie de l'Église. Je regrette que la phénoménologie du seul, mais ce n'est pas la philosophie de l'Église. C'est une philosophie qui a existé, qui a eu son importance, mais c'est une philosophie qui est trop en dépendance de Kant et de Descartes. C'est une philosophie qui, au fond, ne touche pas vraiment le réel. Le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Et je crois qu'une philosophie qui n'a pas le jugement d'existence ne peut pas servir à la théologie. Alors, c'est une des questions importantes à se poser, d'avoir un petit chantier là-dessus, et se poser la question, quelles sont les philosophies qui peuvent être assumées par la foi? Et quels sont les critères d'une philosophie qui peut être assumée par la foi? Ça, il faut le découvrir. Il faut le découvrir soi-même. Parce qu'autrement, on répète, et puis ça ne va pas. Parce que vous serez devant ces questions-là. Ça, c'est bien évident. On est devant ces questions-là. Est-ce que nous pouvons prendre la dernière philosophie pour être parfaitement adaptée aux intelligences d'aujourd'hui? Vous voyez tout de suite la double réponse qu'on doit dire. D'abord, la dernière philosophie, elle est adaptée aux étudiants de philosophie de tel professeur qui enseigne cette philosophie. Il faut du temps avant que ça arrive à la pensée du bon peuple de Dieu. Or, on doit parler non pas aux intellectuels, mais au peuple de Dieu. Et l'enseignement de l'Église est pour, de fait, les hommes, pas les intellectuels, en premier lieu. Les intellectuels ne sont pas exclus en tant qu'ils restent des hommes. Ce sont les hommes auxquels l'Église enseigne. Donc c'est toujours au cœur de l'homme que l'Église parle, puisque la foi est liée profondément à notre finalité. Donc elle est inséparable de la volonté. C'est bien dans l'intelligence, mais elle présuppose un amour. Et donc il faut une philosophie qui se réalise d'une connaissance affective impliquant un jugement d'existence. Je crois que c'est impossible autrement. Et pour la transsubstantiation, c'est très net. Si vous changez transsubstantiation en transsignification et transfinalité, vous restez dans l'intentionnalité, mais vous n'atteignez pas le réel. Je crois que pour l'Eucharistie, on pourrait regarder les effets de l'Eucharistie, c'est sûr, mais ce n'est pas le but direct du cours. Hein. Le but direct du cours, c'est d'essayer progressivement d'entrer dans le point de vue de ce que c'est que la sacramentalité. Alors, si vous voulez, je vais maintenant réfléchir avec vous sur ce que représente ce mode sacramentel dont le Concile de Trente parle. Et nous devons le faire par rapport à l'Eucharistie, puisque c'est le premier sacrement. Et c'est évidemment pas commode. Parce que c'est un mystère. Vous voyez bien, j'en ai pas l'expérience. Vous ne pouvez pas dire, toucher du bois, et vous aurez l'expérience de la sacramentalité. Non. Toucher du feu, et vous avez l'expérience de la sacramentalité. Non. Seule la foi touche le mode sacramentel. Mais je peux essayer d'expliquer ce mode sacramentel. Et je crois que la perspective de la philosophie d'aujourd'hui avec l'intentionnalité est peut-être favorable à préciser davantage ce qu'est cette sacramentalité. Vous voyez, je reprends pour que vous voyez bien à partir de quel moment nous le prenons. Nous le prenons à partir de l'affirmation même du Concile de Trente, puisque ça fait deux fois, que le corps du Christ est présent réellement, substantiellement, sacramentellement. Donc le sacramentellement recouvre réellement le substantiel. Il est réellement présent. Et cette présence du corps du Christ, puisqu'elle est réellement et substantiellement présente, mais d'une manière sacramentale, et c'est ce mode sacramentel qu'il faut essayer d'étudier. Je me souviens d'avoir suivi un cours du père Guérin de Laurier. Un seul soir, c'est un cours sélect. Il y avait des professeurs. Et les étudiants étaient invités, les étudiants d'avance étaient invités. Alors, le père Guérin a essayé d'étudier le mode sacramentel. Au bout du troisième cours, il y avait derrière moi le père Dandel, qui était professeur de dogme, qui pousse un cri. Ah, je vois la question posée. C'était remarquable. Pour vous montrer que ce n'est pas comme ça. C'est une théologie post-tridentine. Et quand on disait que c'était une théologie post-tridentine, ça faisait quelque chose de très particulier au seul choix. C'était une résonance spéciale post-tridentine. Ça veut dire c'était quelque chose de très très secondaire. Non, ce n'est pas quelque chose de très secondaire, parce que le Concile de Trente nous donne l'enseignement de l'Église sur les sacrements. Et l'enseignement de l'Église le plus précis sur les sacrements. Je n'ai pas le droit de le mettre entre parenthèses. Donc, je peux le reprendre à partir des gestes du Christ, mais il y a toute une élaboration qui aboutit au Concile de Trente. Et je dirais, c'est là pour interroger. Un théologien qui se respecte, n'est-ce pas ? C'est là où on prend le lieu de la réflexion théologique. Nous sommes en face d'une doctrine qui appelle la foi. Quand l'Église dit ça, n'est-ce pas ? Quand l'Église nous dit que le corps du Christ est présent sous les espèces eucharistiques, sous les espèces eucharistiques de l'Église tout à l'heure, c'est ce qu'elle dit. C'est un phénomène visible. Le corps du Christ est présent, réellement, substantiellement présent, mais d'une manière sacramentelle. Donc, tout l'effort du théologien, c'est son mode sacramentel. C'est ça qu'on doit essayer de saisir. C'est ça qui fait le propre de cette présence particulière du corps du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Fait à travers les paroles que Jésus dit lui-même à la scène, et que ces paroles, Jésus continue de les dire en se servant du prêtre, puisque le prêtre est présent d'une façon, puisque le Christ est présent à travers les paroles du prêtre d'une façon tout à fait particulière. C'est l'Église qui agit en se servant du prêtre. C'est une cause instrumentale. C'est pour ça qu'il peut dire, Ceci est mon corps, ce n'est pas le corps du prêtre. Et si ce n'est pas le corps du prêtre, ça prouve que le prêtre agit instrumentalement. Et que c'est le Christ à travers lui. Il agit in persona Christi. Donc il agit de la part du Christ, mais plus que de la part. Pas seulement un envoyé, pas seulement intentionnellement. C'est plus. In persona. Ah, la personne, justement, c'est ce dépassement par rapport à l'intentionnalité. Quand j'agis au nom d'une personne, quand j'agis comme un envoyé, là c'est différent. Tandis que là, c'est vraiment une persona. Donc, c'est le Christ qui agit à travers nous et qui réalise ce mystère du corps du Christ présent à travers les espèces étendues. Et lié à ces espèces étendues. Alors là, c'est aussi un très gros problème. Quel est exactement ce lien qui existe entre le corps du Christ et les espèces étendues? Quel est ce lien? Père Nicolas, dans son traité sur l'Eucharistie, essaie de traiter cette question. Ceux qui s'intéressent au même cours du Père Nicolas, je suis à la bibliothèque, nous va alors peuvent regarder cela, essayer de comprendre. Difficile, très difficile. Alors, faut-il creuser ça? Faut-il laisser le mystère? Pas pourtant. C'est un homme dit hein, qu'il y a un lien, puisque lorsque les espèces eucharistiques disparaissent, le corps du Christ est plus présent. Sacramentellement. Donc il y a un lien. Si les espèces eucharistiques se corrompent, puisque les sensibles propres et les sensibles communs peuvent se corrompre. Si elles se corrompent, soit par la manducation, il faut bien qu'on nous communique rapidement, les espèces eucharistiques disparaissent. Qu'on nous communique. Et la présence sacramentelle du Christ n'est plus présente. Il y a la présence mystique. Il y a l'augmentation d'amour qui normalement se fait à ce moment-là et la présence du Christ est présente. Mais le corps du Christ sacramentellement n'est présent que dans la mesure où les espèces eucharistiques demeurent. Quand je vous ai raconté ça. Quand les espèces eucharistiques brûlent, vous l'avez dit pendant la guerre, hein. Je vais hésiter, quand on avait complètement été bombardé la veille de la Pentecôte, et la chapelle était en feu, c'est une grande chapelle, une chapelle très très grande, je ne connaissais pas 1000 personnes. J'ai essayé d'entrer 3 mètres, puis je me suis dit c'est impossible. À part un miracle, on n'a jamais le droit de tenter un miracle. Donc, je dis à tous les jours, c'est de rester là à prier. Le tabernacle a brûlé, la porte du tabernacle est tombée, et le ciboire qui était là présent, parce qu'on le voyait, le ciboire a brûlé, les hosties ont brûlé. À partir du moment où les hosties ont brûlé, il n'y a plus de présence de l'hostie. C'est très impressionnant du reste. Hein. C'est des cas tout à fait majeurs pour qu'on puisse assister à cette chose que les espèces eucharistiques, au fond, normalement, sont faites pour qu'on reçoive, ne sont pas faites pour être brûlées. Et ne sont pas faites pour être corrompues par l'humidité hein, qui arrive de temps en temps quand les prêtres ne sont pas assez attentifs. Alors, les espèces eucharistiques se corrompent. Terrible, c'est un manque de respect vis-à-vis du corps du Christ. Il est lié aux espèces eucharistiques. Alors c'est là, vous voyez, le lien mystérieux, et j'allais dire, on peut dire là on peut parler d'humilité du Christ, de se donner sous les espèces eucharistiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'humilité, vous savez, ces cantiques merveilleux, le Christ est prisonnier, derrière le tabernacle, n'est-ce pas, vous voyez bien. Ce genre de littérature hein, qui n'est pas théologique du tout. Jésus n'est pas prisonnier, ça ne signifie rien du tout. Puisqu'il n'est pas présent physiquement, Il est réellement présent sous un mode sacramentel. Et ce mode sacramentel fait que le Christ n'est pas conditionné par le lieu et le temps. Per modum substantiae. Per modum substantiae. Il est présent per modum substantiae, sacramentellement présent. C'est là où le mystère, c'est très important de voir où exactement est le mystère, pour ne pas l'encombrer d'une gangue imaginative. Que la gangue imaginative diminue le mystère. Le mystère n'est jamais aussi grand que lorsque nous poussons l'analyse théologique jusqu'au bout et que nous atteignons vraiment le mystère dans toute sa pureté. C'est beaucoup plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Et donc nous devons laisser, même si la dévotion, une petite dévotion frémissante doit glisser un peu, et il faut le regard théologique. Alors, la présence du Christ dans l'Eucharistie est toujours relative à la présence du Christ dans le ciel. La première chose qu'on doit voir, c'est pour ça qu'on dit sacramentellement. Qui dit sacramentellement implique nécessairement quelque chose de relatif. Je ne peux pas isoler mettre entre parenthèses la présence du Christ présent à travers l'espèce eucharistique, le Christ tel qu'il est dans le ciel, le Christ dans sa gloire, le Christ dans sa gloire. Nous l'atteignons par la foi, et dans la foi. Et nous l'atteignons immédiatement. Il n'y a pas de distance entre le Christ dans sa gloire et nous-mêmes transformés par la grâce. Vous savez bien qu'il faut toujours bien distinguer ces diverses présences. La présence d'immensité. Je donne ça parce que je crois que c'est des problèmes aussi qui viennent d'où. Vous êtes, vous prêchez à des jeunes, vous leur demandez leurs questions, vous parlez sur l'Eucharistie, sans rien, tout de suite, sans rien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut dire des choses qui soient justes là-dessus. Des choses qui sont d'église, qui sont de la tradition d'église. Donc, il y a la présence d'immensité. La présence d'immensité, c'est la présence du Créateur. Comme le Créateur s'est vu dans son unité, c'est Dieu présent au plus intime de mon être, de mon acte d'être, de mon acte d'exister. Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Vous comprenez bien, parce que votre présence à votre être, ce n'est pas votre cogito. Ce n'est pas une présence d'intentionnalité, c'est une présence métaphysique. Je suis présent à moi-même. Je suis identique à moi-même. C'est curieux, hein? Métaphysiquement parlant. Hein? Je suis présent à moi-même. Alors, cette présence d'immensité enveloppe ma propre présence, la soutient et entend sa signification. Parce que je ne suis présent à moi-même que parce que actuellement, Dieu agit sur moi. Donc, c'est Dieu présent comme source de tout ça. Tout à fait, présence d'immensité. Deuxièmement, présence de grâce dans la foi, l'espérance et la charité. On pourrait distinguer la présence de foi forme et la présence de foi formée. C'est sûr. Si on allait jusqu'au bout des présences, hein, la présence. Dans le point de vue de la grâce. La grâce nous est communiquée en se servant comme instrument le Christ. Par le Christ, c'est toute la très sainte Trinité, qui n'est plus Dieu dans son unité, c'est toute la très sainte Trinité qui est présente à mon âme sanctifiée par la grâce. La grâce, c'est non pas laisser participer, mais c'est la nature de Dieu, ce que Dieu est en lui-même, qui m'est communiqué. Et donc il y a une présence toute nouvelle, toute particulière, quand on appelle ça la présence objective, parce que Dieu est présent et je peux le regarder. Je peux être dans un face-à-face. Tandis que dans la présence d'immensité, il n'y a pas de face-à-face. La présence d'immensité commande l'adoration. Oui, j'ai su comprendre. La présence d'immensité commande l'adoration. Tandis que la présence de grâce commande le point de vue de la contemplation. La face-à-face. Alors, par la grâce qui m'est communiquée par le Christ, la très sainte Trinité est présente. Et Jésus lui-même, comme instrument conjoint au Verbe de Dieu, l'humanité sainte du Christ, comme instrument conjoint, et comme un instrument qui est lié personnellement au Verbe de Dieu. Et par là, toute la très sainte Trinité. C'est une présence de grâce, et donc, on peut dire que par la grâce, cette grâce est vécue dans la foi, et dans une foi formée. Le Christ est plus présent à moi-même comme source de grâce que je ne suis présent à moi-même dans ma grâce. Parce qu'il est source, bien qu'il soit source instrumentale, pas de distance entre le Christ dans sa gloire et moi-même. Présence mystique. C'est la présence mystique, c'est la présence de Jésus dans l'horizon, dans la prière, et que nous pouvons actuer à chaque instant. Et dont l'Esprit Saint peut, grâce au don du Saint-Esprit, nous donner l'expérience. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il peut y avoir une expérience spéciale du Verbe, du Père et de l'Esprit Saint. Puisque c'est une présence objective des trois personnes divines, de la très sainte Trinité, par le cœur du Christ, par l'humanité sainte du Christ. Il y a en même temps cette expérience que je peux avoir de l'intimité profonde avec le cœur du Christ, qui est source instrumentale. Et ça, c'est la présence de la source. Les deux hein, sont la présence de la source. Et là, c'est l'essai, ici, c'est la grâce. Et la grâce, c'est participation formelle de la nature de Dieu. Je crois que ça, nous pouvons tout le temps y réfléchir. Essayer de comprendre comment ces deux présences viennent en quelque sorte s'actuer mutuellement, si vous voulez. Il y en a une toujours actuelle, celle-là dans la grâce est toujours actuelle, j'en prends conscience. Hein, c'est troisième type de présence, la présence selon le mode sacramentel. Qu'ajoute cette présence par rapport aux deux autres. Quel est ce type particulier, cette présence? Elle présuppose toujours les deux autres. Toujours. Jésus présent sacramentellement dans l'Eucharistie est tout entier relatif, comprenons bien, à Jésus dans la gloire. Et Jésus parle la présence sacramentaire, sous les espèces eucharistiques, se donne à moi comme pain. C'est qu'il veut me faire comprendre que sa présence est un don actuel sous le mode de l'aliment, sous le mode du pain et du vin. Donc, c'est précisé dans la présence mystique. Je dis bien, c'est précisé, la présence mystique contient cela. Mais c'est précisé dans la présence mystique ce mode particulier de Jésus qui se donne comme aliment. Alors, l'aliment, c'est le don substantiel sans aucune restriction. Parce que l'aliment ne garde rien pour lui. Donc c'est pour nous faire comprendre qu'il se donne à nous substantiellement dans l'amour, sans rien garder pour lui. Un don absolu. Donc il y a un langage, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Il y a un langage pour nous, que nous avons besoin, tant que nous sommes dans la foi, nous avons besoin de certaines précisions. Si on vivait d'une présence mystique de la grâce parfaite, nous n'avons pas besoin de la présence sacramentelle. Nous avons besoin de la présence sacramentelle parce que nous devons croire dans la grâce. Alors ça, c'est très très important de noter tout de suite, vous voyez. Parce que ça vous fait tout de suite comprendre pourquoi les sacrements nous sont donnés. Les sacrements nous sont donnés parce que nous sommes dans un état de croissance. Si nous n'avions pas à croire, nous n'avons pas besoin de sacrements. C'est comme ça de comprendre. Aujourd'hui, on a beaucoup de temps dans comment traiter les sacrements. Donc il faut faire comprendre que c'est parce qu'il y a une croissance. Nous avons besoin, dans un milieu donné, et quand nous avons besoin de croire, nous avons besoin d'intensifier notre foi, d'intensifier notre espérance, d'intensifier notre charité. Et Jésus se donne lui-même, non seulement comme terme de cette présence, mais comme la voix. Je suis la voix. La voix, c'est la lumière. Donc, il est le moyen. C'est ça qui est extraordinaire. Il est le terme, il est le moyen par excellence. Ça, c'est propre de la présence sacramentale. C'est un moyen divin. C'est un moyen divin. Conjoint à sa source. Pas séparé, mais c'est un moyen, c'est un même il est donné comme ça. C'est comme un moyen pour intensifier la foi, l'espérance et l'amour. Donc, il est donné pour celui qui est in via, celui qui est pèlerin, celui qui doit croître. Le jour où je ne serai plus pèlerin, je n'aurai plus besoin de sacrement. Le sacrement n'existe plus dans le ciel. C'est pour ça que les sacrements caractérisent l'Église militante. Ça ne caractérise pas l'Église tout court. Qu'est-ce qui caractérise l'Église tout court? C'est le mystère de la grâce. Corps mystique. Quand vous dites corps mystique, vous n'expliquez pas les sacrements. Mais vous expliquez la présence mystique. Et dans cette présence mystique, vous prenez les trois comparaisons, le corps mystique, le temple et le tout et le plus. Ça, c'est le corps mystique. C'est la présence mystique du Christ dans chacun de ses membres. Nous devons ajouter que cette présence mystique se donne à nous à travers les sacrements. Et à travers les sacrements, c'est-à-dire comme un moyen divin qui nous permet de croître. C'est parce que nous avons besoin de cette croissance. Cette croissance se faisant dans la lutte, cette croissance impliquant des échecs, impliquant des difficultés, impliquant des luttes, nous avons besoin d'un aliment. C'est la surabondance. Et c'est du côté de ce mode de croissance. Autrement dit, du côté de cet encouragement que nous donne Jésus, n'étant pas seulement le terme vers lequel nous tendons, mais venant lui-même au devant de nous pour nous aider dans notre route, pour nous aider dans notre dans nos difficultés, nos luttes. Il se donne à nous comme aliment. Donc c'est une présence, vous voyez, sous ce mode sacramentel du pain et sous présence du vin. Nous essaierons de comprendre ensuite comment il y a ces deux. Mais je regarde d'abord ça. Sous cette présence qui nous est donnée de cette manière-là, comme aliment et comme boisson, pour nous faire comprendre qu'il veut se donner à nous comme étant celui qui nous aide, celui qui est vraiment la voie, l'aliment. C'est la voie la plus forte, hein. Primo vivere. C'est la première chose. D'abord vivre. Et c'est l'aliment qui est donné, pain de vie, pour que nous puissions vivre. Et par là, Jésus est clair pour nous, dans ce langage, cette présence substantielle mystique, qui est lui, qui éternellement se donne. Alors, essayons de voir ce que représente cette présence sacramentelle. Elle est au service de la présence mystique. Donc elle est tout entière ordonnée à la présence mystique. C'est pas la présence mystique qui est ordonnée à la présence sacramentale. Elle est tout entière ordonnée à la présence mystique. Et elle doit venir nous éclairer sur la présence mystique. Donc elle est une pédagogie divine. C'est Dieu qui nous enseigne. C'est Dieu qui nous aide et qui nous enseigne. Donc, qui nous apporte une force et qui nous éclaire. Je crois que ce sont les deux notes particulières de cette présence sacramentelle. Donc, il y a l'efficacité de l'aliment et il y a manifestation. Autrement dit, si nous essayons de comprendre cette modalité particulière de cette présence sacramentelle, nous devons dire qu'elle est efficace. Quand vous mangez, vous savez que le pain est efficace. Vous n'allez pas manger pour plaisir de manger. La nourriture est efficace. Il y a une efficacité propre à la nourriture. Cette efficacité propre à la nourriture, c'est de réparer nos forces. C'est de faire que progressivement, en prenant la nourriture, nous prenons quelque chose qui nous permet de continuer notre route. Donc il y a une efficacité dans cette présence. C'est pour ça, dans le langage de l'écriture, dès que Jésus est présent, on atteint le terme. Il y a une efficacité. Et cette présence est aussi un enseignement, pédagogie d'amour, qui nous enseigne, pour nous faire comprendre que la présence mystique est plus grande que ce que nous appelons nous, l'unité substantielle. Parce que quand vous vous nourrissez, le pain devient vous-même, l'unité substantielle. Et cette unité substantielle qui se réalise entre l'aliment et celui qui s'en nourrit est signe divin de l'unité substantielle qui existe entre le Christ et nous, dans le corps mystique. Cette unité substantielle entre la tête et le membre. Donc vous voyez comment il y a ces deux dimensions. Je crois que c'est les deux dimensions caractéristiques de la présence sacramentelle. Elle est un moyen divin, une pédagogie divine, une pédagogie qui est de l'ordre des moyens. Elle est un moyen divin efficace et une pédagogie divine. Alors vous comprenez que là vous saisissez tout de suite les deux aspects du sacrement. L'aspect du sacrement, l'aspect d'efficacité instrumentale et l'aspect du signe. Et pourquoi Saint Thomas parle d'instrument et de signe? Parce que si vous regardez la manière dont le Christ est présent dans la présence sacramentelle, c'est que vous voyez l'efficacité de l'aliment et vous voyez l'enseignement, la pédagogie divine. Parce qu'il ne nous est pas dit, hein, quand vous dites le sacrement, quand vous prenez la définition du sacrement en disant que c'est le verbe à l'élément, verbum ad elementum tout sacramentum. Très bien, c'est sûr, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce mode sacramentel, cette présence sacramentelle. Cette présence sacramentelle est toute relative à la présence mystique. Puisque Jésus se donne comme un aliment. En même temps, c'est par le Saint-Esprit ce qu'on contemple. On contemple une personne. Il se donne comme un aliment pour nous faire comprendre qu'il est la voie qui nous conduit de la manière la plus sûre au terme. Et donc, il y a bien cette valeur d'efficacité instrumentale et cette manifestation du signe. Efficacité instrumentale, parce que par la communion, par l'Eucharistie, Jésus se donne à nous comme aliment pour que nous soyons plus profondément incorporés en lui, pour que nous soyons plus profondément unis à lui. Voilà l'effet propre du sacrement de l'Eucharistie. C'est que Jésus demeure plus profondément en nous. C'est le premier effet. Et C'est l'union donc avec la présence mystique. J'ai ordonné à cette présence mystique. Et d'autre part, c'est un signe qui nous enseigne sur la qualité de cette présence mystique. Cette présence mystique est substantielle. Je crois que c'est les deux aspects. Alors, nous pouvons essayer de comprendre comment, à partir de là, nous pourrions préciser un peu. Efficacité instrumentale. Et puis, signe. Quand je dis efficacité instrumentale, je veux montrer une efficacité réelle, divine. Il y a une virtus, il y a une vertu, parce qu'il y a la présence de Jésus qui nous est donnée à travers le sacrement de l'Eucharistie. Il y a une grâce du sacrement de l'Eucharistie. Si je reçois l'Eucharistie avec foi, si je reçois l'Eucharistie avec ferveur, il y a donc un accroissement de charité, un accroissement d'espérance, un accroissement de foi. Il y a une vertu divine, et cette vertu vient directement du don du corps du Christ. À travers le sacrement de l'Eucharistie. Présence eucharistique efficace sous la forme de l'aliment. Et en même temps, un enseignement, les sacrements nous enseignent, c'est une pédagogie divine, dans l'ordre justement d'un enseignement d'une connaissance efficace pour comprendre cette présence d'immensité. Alors, vous comprenez que nous sommes au niveau des instruments et du signe. Or, l'instrument et le signe est tout entier relatif à l'autre. Il est donc de l'ordre de l'intentionnalité. Et de l'intentionnalité divine. Alors, faisons attention, quand nous disons intentionnalité divine, nous voulons justement dire que cette intentionnalité est substantielle. Et le pauvre mot. C'est une intentionnalité substantielle. C'est une intentionnalité. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ordre de l'instrument et du signe. Mais c'est une intentionnalité divine, et donc elle est substantielle. Terme donc substantielle. Alors vous voyez, ici, nous faisons, c'est en bonne théorie, nous sommes obligés de nous servir de deux analogies qui, au point de vue philosophique, normalement, sont complètement séparées. Et c'est peut-être ici où c'est le plus exigeant. Nous nous servons de l'analogie de l'intentionnalité et nous nous servons de l'analogie de la substance. Normalement, qui dit substance s'oppose à l'intentionnalité, qui dit intentionnalité dit relative à la substance. Et là, nous voyons que les deux sont finis. Là, nous ne saisirez jamais le mode instrumental, le mode sacramental. Mais vous comprenez que tout ce qui irait contre cette intentionnalité et contre l'aspect substantiel diminuerait l'histoire. C'est pour ça, ne regardez que l'intentionnalité, c'est oublier que c'est une intentionnalité divine. C'est pour ça qu'on a dit transsignification et transfinalité, c'est le regarder que l'intentionnalité. Alors, cette intentionnalité est divine, elle est substantielle. Hein, c'est-à-dire transsubstantiation. Et si vous ne regardez que l'aspect substantiel, oubliant de regarder l'intentionnalité, vous confondriez la présence de Jésus dans l'Eucharistie avec la présence mystique du Christ. Nous devons respecter les deux. C'est une troisième présence, par surabondance, qui nous est donnée pour que nous vivions cette présence. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.